Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Dans cet épisode de Détour, nous allons discuter de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Si vous êtes à la recherche de soutien, nous avons inclus un lien dans la description de l'épisode vers des ressources à travers le Canada. Bonjour, je suis Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de Canada Land. Aujourd'hui, on discute avec Sophie Gagnon, avocate et directrice générale de la clinique juridique Juripop. Allô Sophie!
Allô Émilie!
Ça va?
Ça va toi?
Oui, merci d'être à l'émission avec nous aujourd'hui. On fait quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Dans cet épisode, on va vous parler d'un sujet principal. On va l'aborder sous deux angles différents dans chacun de nos segments, mais considérez ça comme une émission spéciale dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Christy Ardell, Sean Newton, Angela Koskanko, Jan Lim, Ryan Mayer, Barry McWilliams, Alexandra Herb et Michelle.
Hi there, my name is Michelle. I am from Montreal. I'm a specialized trucker and an avid scuba diver. I support Canada Land because I think it's really important that we get to hear the stories that Jesse and the rest of the team get to bring us. So thanks for everything, guys. Keep up the good work.
Pour les gens qui connaissent pas ton travail, donc tu es directrice générale de Juripop, qui est un organisme qui offre des services juridiques pour un ensemble de clientèles et qui notamment depuis quelque temps dans des programmes spécialisés pour accompagner les personnes qui sont victimes de violences sexuelles, c'est bien ça?
Oui, c'est bien résumé.
C'est bien résumé. Et donc, dans le dernier mois, il y a eu bien sûr une enquête de la presse qui a été publiée sur Julien Lacroix, qui était un humoriste qui était connu au Québec avant d'être dénoncé en 2020. Et ça a suscité tout un ensemble de réactions, bien sûr, dans Le Devoir. À Tout le monde en parle aussi, il y a eu des entrevues. Ça a relancé tout le débat public sur le mouvement Moi aussi, sur les dénonciations dans l'espace public. On a beaucoup parlé, entre immenses guillemets, de tribunal populaire. On a essayé d'accompagner les victimes à travers tout ça. C'est important, par ailleurs, de mentionner que bien sûr, je suis chroniqueuse au Devoir, on parle d'un travail qui est fait à la presse, mais simplement rappeler qu'on est aussi dans une conversation, on essaie d'être dans une conversation aussi en ce moment où on veut vraiment parler de l'écosystème médiatique dans son ensemble et de la déontologie journalistique dans son ensemble, plutôt que d'insister sur une personne ou une autre. Je pense que la conversation qu'on doit avoir doit toucher absolument tout le monde dans l'écosystème médiatique. Donc, la première question que j'ai envie de te demander, c'est toute cette actualité-là qu'on a vue au Québec, quel impact ça a eu sur ton travail?
J'ai envie de répondre en me tournant vers l'interne de Juripop.
Oui.
Parce que cette actualité-là a vraiment été épuisante à suivre. Quand même, le tiers de l'équipe chez Juripop, dont le travail, c'est d'accompagner directement ou indirectement des personnes qui vivent des violences sexuelles, des violences conjugales ou des violences au travail. Puis les dernières années, on a créé un espace de solidarité envers les personnes que nous, on accompagne. Puis ça a été vécu comme un ressac, l'actualité des dernières semaines, Puis c'est difficile de voir un progrès reculer. Je pense que le ressac, c'est vraiment la bonne expression, fait que ça nous a beaucoup épuisés à l'interne.
Pourquoi tu utilises ce mot-là, ressac? C'est un mot qui est fort.
Ben parce que, tu sais, un des mythes puis des stéréotypes concernant les dénonciations de violences à caractère sexuel, c'est que les personnes qui dénoncent mentent.
Mm-hmm.
On remet beaucoup plus souvent en cause la parole des personnes victimes de violences sexuelles que les victimes d'autres types de crimes. Alors que ce que les statistiques démontrent, c'est que en ce qui concerne les plaintes à la police, je connais pas les statistiques pour les dénonciations publiques, mais les plaintes à la police sont pas moins fondées quand elles concernent des agressions sexuelles que d'autres types de crimes. Alors que c'est cette parole-là qu'on remet le plus souvent en cause. Puis le mouvement m'a aussi, à mon avis, un des acquis ou une des avancées, ben c'est qu'on a beaucoup sensibilisé la population au fait que à l'importance de croire les personnes qui dénoncent. Puis la manière dont l'article a été construit et surtout dont il a été récupéré, à mon avis, alimente le mythe du mensonge, des dénonciations qui sont mal fondées ou sinon qui sont mises de l'avant pour nuire à quelqu'un. C'est le mythe des sorcières qui se mettent ensemble pour faire une chasse aux sorcières, en fait. Ça l'a alimenté ça, fait que c'est pour ça que je parle de ressac.
Donc, juste pour être clair, l'article dont tu parles, c'est l'enquête qui avait été publiée dans la presse, qui est revenue sur l'affaire Julien Lacroix, en mettant la parole à certaines des personnes qui l'avaient dénoncée en 2020, certaines de ces victimes-là qui avaient évolué dans leur manière de décrire ce qui leur était arrivé, dans qu'il y a certaines qui avaient des regrets par rapport à l'impact que leurs dénonciations ont eu sur Julien Lacroix. Donc, c'est de cet article-là dont on parlait, pour les gens qui ont pas nécessairement suivi cette question-là, on a vraiment une audience qui est partout au Canada. Donc, c'est de ça dont tu parles, que suite à la publication de cet article-là, il y a eu vraiment en fait, comme tu dis, c'est plus sa récupération, en fait, ou sur les médias sociaux, il y a eu vraiment on s'est mis, ces femmes-là exagéraient, mentaient, etc. Donc, on a vu beaucoup ces messages-là portés. En fait, je vais être transparente aussi, mon propre inbox, parce que j'ai écrit sur ces questions-là dans les dernières semaines, j'ai eu des journées avec des dizaines de messages de complets inconnus, puis des gens qui me disent, avec ce que je vois dans l'actualité, je suis pas capable de dormir, je suis au bord des larmes, des gens qui me racontent des choses qui leur est arrivées, puis c'est comme si, je sais pas si les gens sont allés vers les services, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une ambiance très lourde pour les personnes qui sont des survivantes dans les dernières semaines. Ou peut-être que ça ne s'est pas traduit en démarches concrètes, mais peut-être en paix d'esprit, en paix d'esprit partie, en stress. Il y a une notion dont on a parlé beaucoup en 2020, lorsque, par exemple, George Floyd avait été tué, de la vidéo qui avait circulé beaucoup. Aux États-Unis, on avait beaucoup parlé de vicarious stress ou de trauma essentiellement par exposition à des images dans les communautés noires. Mais j'ai l'impression que lorsqu'il est question aussi de violence sexuelle, le simple fait d'en parler, le simple fait d'y être exposé pour les personnes qui ont ce vécu-là, il y a certaines personnes que ça peut les faire, ne serait-ce que juste replonger dans leurs souvenirs, dans des parties de leur cerveau qui avaient comme bloqué dans des petites boîtes. Et puis, moi, ce que j'ai senti, c'est qu'il y a tout ça qui est ressorti. Je ne sais pas si ça s'est transformé en démarche, mais moi, j'ai senti que ça a sorti, là.
Oui, non, je partage ta lecture. Puis c'est pour ça que ma réponse était comme de me tourner vers l'interne, parce que je l'ai senti chez les humaines avec qui je travaille, tu sais.
Oui.
Puis à ce niveau-là, quand tu te dis est-ce que les gens vont se tourner vers les ressources, c'est moi, une de mes inquiétudes, c'est que contrairement à ce qu'on a entendu lors des vagues de dénonciation, puis au Québec, on en a eu une seconde en 2020 sur les réseaux sociaux,
mm-hmm.
On a beaucoup entendu des injonctions à ce que les personnes qui dénoncent se tournent vers les tribunaux, se tournent vers le système de justice formelle. Puis on mettait vraiment en opposition les dénonciations sur les réseaux sociaux ou les dénonciations dans les médias aux dénonciations dans le système de justice. Mais nous, ce qu'on voit dans notre travail chez Juripop, c'est que les personnes qui dénoncent sur les réseaux sociaux ou dénoncent dans les médias le font à titre de dernier recours, parce qu'elles ont dénoncé par les voies formelles. Elles sont allées voir leur employeur, elles sont allées porter plainte à la police, sont allées chercher des ressources, puis les démarches formelles qu'elles ont entreprises n'ont pas répondu à leurs besoins. Et puis là, dans les dernières années, c'est comme si on testait d'autres voies de passage informelles pour obtenir justice. Puis là où je pense qu'il y a eu une violence dans la couverture médiatique il y a quelques semaines, c'est que c'est comme s'il y avait eu une espèce de confiance collective envers d'autres voies de dénonciation. On se disait, bon, ben on va peut-être pouvoir obtenir justice par les médias traditionnels ou les réseaux sociaux. Puis là, finalement, whoops, cette autre voie-là dans laquelle on avait placé notre confiance, elle s'effondre. Ou notre parole est récupérée contre nous, tu sais. Puis ça, c'est épuisant aussi, tu sais, de voir que dans le fond, c'est des personnes qui sont cognées à une énième porte. Puis qu'en cognant à la énième porte, ben, ils ont frappé un énième mur.
C'est ça. Et je pense que c'est pour moi la raison pour laquelle je voulais vraiment à ce que... Je tenais vraiment à ce qu'on ait cette conversation-là ensemble parce que, mais en fait, Détour à la base, puis Canada Land, le réseau au complet, c'est une initiative qui a comme valeur phare de faire de la critique du travail médiatique. Puis, effectivement, ce que tu dis là, je le sens. Et puis, il y a deux choses. La première que j'ai envie de parler avec toi au niveau de cette critique-là, ce travail d'introspection-là des médias, c'est que dans les dernières semaines, j'ai senti, par exemple, bon, toi qui travailles là-dedans à temps plein, et Léa Clermont-Dion, qui est aussi une survivante et qui a fait des documentaires là-dessus, qui a aussi développé une forte expertise sur ces questions-là. Vous avez donc, avec d'autres, avec une centaine d'autres personnes d'ailleurs, envoyé une lettre ouverte à la presse pour essentiellement faire entendre un point de vue plus d'expertise. Mais c'est comme si l'expertise sur la question des violences sexuelles a été en réaction au travail médiatique plutôt que inclus directement dans ce que suscitait la conversation. J'ai vu aussi plusieurs émissions où, à la télévision aussi, la même chose. On laisse la parole aux victimes qui sont des fois peu accompagnées ou pas accompagnées, ou bien sûr aux journalistes, etc., qui sont des généralistes, qui ne sont pas des experts de ces questions-là. Et puis, à la fin, dans un deux minutes, un segment où il y a une personne qui a une expertise vraiment là-dedans qui s'exprime, et dans des sujets qui sont tellement sensible comme ça, ça peut contribuer aussi à la manière dont la conversation a pu déraper ou a pu être sentie comme violente, comme tu le dis, pour certaines personnes. J'ai envie de te lancer une question comme ça à brûle pour point. Je vois que Jurypop a formé, en fait, des avocats qui ont des pratiques privées pour être capables de mieux accompagner les personnes qui sont des victimes ou des survivantes de violences sexuelles. Je ne pense pas qu'il y a particulièrement de formation pour les journalistes qui veulent travailler sur ces questions-là. Est-ce que ça pourrait être une piste à explorer d'avoir, en fait, de la formation professionnelle pour des journalistes de tous les médias qui veulent travailler particulièrement sur les questions des violences sexuelles, d'être ou particulièrement outillés pour naviguer les défis éthiques, déontologiques qui sont liés à ça?
Le mois dernier, une de mes collègues, Justine Fortin, qui est notre directrice des programmes en violences sexuelles, violences conjugales, a participé à un atelier offert par la FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, spécifiquement sur ce sujet-là, à savoir c'est quelle posture les journalistes devraient avoir quand ils couvrent des questions de violence sexuelle, violence conjugale. Puis un des messages qu'on a porté lors de cette formation-là, c'est l'importance de s'adjoindre de personnes expertes. Mm-hmm. Puis je dirais que ça peut aussi être fait en off. Ce que je veux dire par là, c'est que, puis nous, on le fait, moi, je le fais dans mon travail. Il y a des journalistes, des fois, qui nous appellent juste pour bien comprendre un phénomène puis pour s'assurer d'utiliser les bons mots.
Sans te citer par la suite, là.
Oui, exactement. Sans être cité, voilà. Juste pour encadrer, guider le ou la journaliste dans sa démarche. Puis, c'est particulièrement important en matière de violence conjugale où les mots sont déterminants sur notre conception de la situation. Par exemple, il y a un monde de différence entre parler d'une chicane de couple ou entre parler d'une dynamique de violence conjugale. C'est des termes qui sont chargés de sens, mais qui sont très différents. Puis nous, on peut outiller les journalistes sur les bons mots à utiliser puis sur les conséquences de les utiliser ou pas.
Je veux juste insister là-dessus parce que c'est vraiment important. J'ai l'impression que la formation de base en journaliste, c'est comme, est-ce que j'ai bien reflété les citations de mes sources? Oui. Est-ce que j'ai vérifié mon information? Oui. Est-ce que j'ai été juste? Est-ce que j'ai interviewé l'autre partie pour lui donner une chance de répliquer? Oui, OK, déontologie, check. Donc, c'est comme si cette attention-là aux mots, elle est là. Mais c'est comme un peu du 201, 301, puis c'est là où je pense où des fois les gens, tu vas avoir des journalistes qui ont l'impression d'avoir fait un travail déontologique, qui n'ont rien à se reprocher, puis dans les faits, effectivement, ils n'ont rien à se reprocher, tu peux te plaindre des expressions qu'ils ont utilisées, mais c'est dans les expressions qui sont utilisées, dans la manière de présenter les choses, que là, oups, il va y avoir un truc tendancieux qui va mener à des backlash. Mais c'est comme si la déontologie traditionnelle, disons, permet pas de sentir, en fait, c'est la sensibilité à la connotation n'est pas toujours là.
Ça, puis aussi, il y a un choix éditorial, je crois, je vais assumer le mot que j'utilise, sur les personnes à qui on donne la parole. Par exemple, c'est arrivé dans les derniers mois, dans l'actualité, où il y a un article, un journaliste qui couvrait un féminicide, donc une femme qui était morte dans une situation de violence conjugale. Et puis, le journaliste, dans son article, est allé rencontrer une voisine, puis citait la voisine en train de dire « Ben voyons donc, jamais est-ce que je l'aurais su, c'est un couple sans histoire. » Quand je parle des mythes et des stéréotypes, la violence conjugale, on pense encore à tort que ça se voit au grand jour, tu sais, ou qu'on va entendre des cris, des chicanes.
Là, je vois tout de suite ça aller direct que quand t'es un journaliste puis tu te fais donner une citation comme ça, ta quote, elle s'en va dans ton titre puis c'est comme sous-section. Un couple sans histoire, tu sais, puis avec la photo, puis c'est comme ça qu'on présente après ça l'information. Puis c'est sûr que ça vient effectivement teinter toute la perception après ça des faits qui sont rapportés dans l'article.
Ben oui, puis ça donne aussi un mauvais message de ce qu'on peut faire comme société et comme voisin quand on... Parce que une victime de violence conjugale est isolée par l'auteur de violence. C'est sûr qu'on la verra pas, puis qu'on la verra pas l'histoire. Elle existe, mais elle existe derrière des portes closes. Donc, de mettre l'accent sur le fait que la violence n'était pas visible... un peu pour nier la violence, ben c'est une opportunité ratée d'éduquer la population sur les signes avant-coureurs de la violence conjugale parce qu'il en existe. Puis le journaliste aurait pu, en parlant avec des experts, avoir des idées dont... Ah ben dans ce cas-là, je pourrais peut-être parler des drapeaux qui existaient ou des signes avant-coureurs, des manifestations de la violence que les proches n'ont pas vues. Puis ça, ça aurait fait une histoire qui aurait eu une portée éducative de sensibilisation beaucoup plus importante.
Ben, c'est un bon exemple. Donc, cet accompagnement-là, c'est ça, c'est ta première recommandation, parce qu'on n'est pas juste en train de chialer en mode solution.
Voilà.
Lorsqu'il est question du système juridique, il y a eu une sensibilisation avec le temps au fait que c'est un système qui, pour plusieurs personnes, est vécu comme c'est très difficile, les gens sont pas crus, etc. Donc, il y a des ressources qui ont été mises en place par le milieu féministe pour accompagner les victimes dans leur processus de dénonciation juridique, si c'est ce qu'elles veulent faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'accompagnement professionnel des agresseurs en relations publiques dans les dernières années, qui vont aller chercher une expertise en communication, en médias. Mais j'ai l'impression qu'il y a des victimes qui approchent des journalistes et qui n'ont pas cet accompagnement-là.
Je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose de tellement important, Émilie, parce que moi, quand j'ai lu l'article de la presse, j'ai eu tellement de peine. J'ai tellement eu de la peine pour les personnes qui avaient dénoncé une première fois au devoir puis qui rapportaient à la presse être... Tu sais, le titre de l'article, c'était « Des cicatrices et des regrets ». Donc, elles rapportaient avoir été cicatrisées ou encore regretter leur dénonciation ou comment elle avait été rapportée. Mais je me mettais à leur place puis je me disais « Aïe, ce deuxième article-là doit aussi... » les blesser, tu sais, ça a pris une ampleur complètement disproportionnée. Puis moi, dans mon travail, je suis porte-parole de Jury Pop, je vais dans les médias, je sais ce que ça implique. Quand tu partages une histoire à un journaliste, t'acceptes que tu perds le contrôle sur l'histoire, alors que quand on dénonce une violence à caractère sexuel, souvent, le processus de dénonciation, ça vise pas à nuire à l'agresseur, ça vise à conserver ou à reprendre son pouvoir sur la dénonciation. Puis moi, ce que je lisais, c'était que ces femmes-là se sont tournées vers les journaux espérant reprendre leur pouvoir ou contribuer à mettre fin à des violences. Puis là, quelques années plus tard, elles réalisaient qu'elles avaient d'autant plus perdu le contrôle sur leur situation. Puis ça, c'est pas viable, c'est pas sécuritaire pour elles.
Non, c'est comme choisir la manière dont tu veux perdre ton pouvoir, dans le système juridique ou dans le système médiatique. Ça marche pas. Ça marche pas.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sophie, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci?
Ben moi, Émilie, ce que j'aimerais qu'on garde en tête, c'est qu'on a encore un rapport que je considère problématique au char. Puis ce qui me fait penser à ça, c'est que la Société de transport collectif de Montréal, la STM, a annoncé, a déposé son budget la semaine dernière, puis les médias ont rapporté ça comme la STM annonce un déficit de 68 millions. Puis moi, j'aurais tellement aimé ça qu'on dise les élus doivent contribuer 70 millions pour assurer le transport collectif au Québec. Fait que l'angle qui a été pris pro-char m'a vraiment dérangée, puis je veux qu'on s'en rappelle.
C'est bien noté, Sophie.
Puis toi, Émilie, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de l'actualité ce mois-ci?
Moi, je vais y aller d'abord sur une note un peu plus lourde, mais je voulais amener les gens qui n'ont pas encore lu le long read de Martin Patrickin dans Le Walrus, qui est un texte étrangement, exceptionnellement, je veux dire, bilingue, donc qui a été publié en français et en anglais, qui s'intitule « Comment la Commission des droits de la personne du Québec a chassé sa première présidente noire ». Donc, on reparle de la manière dont Tamara Termitus a été essentiellement forcée de remettre sa démission de la présidence de la Commission des droits de la personne dans un contexte où elle poussait pour que la Commission fasse un meilleur rôle pour la lutte contre le racisme à la Commission des droits de la personne. C'est une histoire qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup couler d'encre. Donc, il y a des personnes qui étaient dans des rôles de cadre assez seniors à l'intérieur de la Commission des droits de la personne qui avaient fait des dénonciations dans les médias encore contre elle. Donc, elle avait été accusée de harcèlement psychologique. C'est une histoire qui est encore pas réglée. Donc, il y a poursuite et donc toutes sortes d'enquêtes qui sont encore en cours des années après. Mais c'est vraiment intéressant que ce portrait-là, où on prend vraiment... Je pense que le journaliste ne se cache pas de parler vraiment du point de vue de Tamara Termitus, que ça soit sorti dans le Walrus, et d'abord en anglais et ensuite en français, dans un texte donc à l'extérieur du Québec, et c'est le seul endroit où on a parlé de la Commission des droits de la personne du Québec, on est revenu sur ce qui s'est passé. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous incite à le lire, c'est vraiment fascinant.
Je trouve ça intéressant, Émilie, que tu mentionnes ça, parce que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, c'est une instance juridique là, que moi, je suis de près, puis j'avais été vraiment, je sais pas c'est quoi le bon terme, mais ébranlée par sa sortie. Puis tu sais, comment au Québec, on a tendance à évacuer les dimensions raciales des questions d'actualité, puis... quand
non,
elle avait...
on fait jamais ça, nous autres, voyons donc.
Fait que c'est pas en tout cas, c'est pas surprenant que cet angle-là soit mis de l'avant par The Walrus plutôt que par un équivalent bien chez nous. C'est bien noté.
Sophie, as-tu une deuxième chose que tu voulais qu'on garde en tête aujourd'hui?
Ben, tu veux-tu que je parle de ma niaiserie, là?
Oui, les baguettes.
Bon, fait que comme on a souvent tendance à parler juste d'affaires lourdes puis critiques tout le temps,
ouais.
Moi, je vais amener quelque chose de léger, je pense. Hier a marqué l'intronisation de la baguette française au patrimoine culturel de l'UNESCO. J'ai rien contre ça. Mais écoute, j'en ai entendu parler dans l'actualité, là, je pense, 8 fois de la baguette, la croûte. Là, on interviewait des boulangers. Il y avait beaucoup trop de place accordée à la baguette. Ça a comme atteint mon quota de baguette. Fait que c'est ça. Assez de baguettes pour le mois. Je pense que c'est ce que j'ai à dire.
Non, mais il faut comprendre, Sophie, c'était impressionnant. Il y avait la délégation française à l'UNESCO avec leur baguette de pain
non.
qui est en train de juste wilding dans l'UNESCO.
C'est pas vrai.
C'était... Oui, oui, je te jure. Les images de qui étaient juste... On dirait qu'ils avaient gagné la Coupe du monde déjà, là, avec leur baguette de pain. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un sujet léger, mais aussi croustillant, puis juste comme bien chaud.
Non, c'est ça. Il y a eu beaucoup trop de jeux de mots comme ça dans les médias.
C'est bien noté, Sophie. Sophie, dans la première partie de notre discussion, on a plus parlé de ce qui s'est passé essentiellement avec les victimes ou avec les survivantes de violences sexuelles dans les dernières semaines. J'avais envie de continuer notre conversation en démystifiant plus ce qui se passe du côté des salles de nouvelles lorsqu'il est question de violences sexuelles, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup encore d'incompréhension de ce niveau-là. Autant il y a beaucoup de frustration des victimes envers l'environnement journalistique, on en a parlé tout à l'heure. Autant des fois, je pense que le travail des journalistes est parfois mal compris, puis j'avais envie qu'on rentre là-dedans ensemble à partir de l'exemple très récent de la condamnation, en fait, du député Harold Lebel, qui est un ancien député du Parti québécois, qui vient d'être condamné, donc la semaine dernière, de retrouver coupable d'agression sexuelle. Et ça m'a fait penser, en fait, à tous les autres cas, soit d'accusation, soit d'allégation, envers les personnes dans le milieu politique en particulier. Et je pense que dans le milieu politique, le mouvement, moi aussi, a été, comment dire, ça a été très difficile de faire tomber des figures du mouvement politique au Canada, même lorsqu'il y a eu des dénonciations, notamment sur les réseaux sociaux et autres. Mais avant d'embarquer là-dedans, j'avais envie de te demander, est-ce que toi, tu as suivi le procès d'Harold Lebel. Est-ce que tu as été appelée à le commenter dans les derniers jours?
Moi, si je peux prendre un petit pas de recul, depuis le mouvement, moi aussi, j'aborde toujours avec un peu de méfiance la tendance qu'on a eue à ériger certains dossiers en symbole. C'est en symbole du mouvement, moi aussi, en symbole du fonctionnement ou non du système de justice. Puis le dossier dont tu parles, ben au Québec, les autres dossiers qui avaient été érigés en symbole se sont beaucoup soldés par des acquittements. Alors que celui-là, il y a eu un verdict de culpabilité. Et puis, plusieurs personnes et journalistes s'en sont saisis pour montrer que le système de justice, finalement, ça fonctionnait. Puis je pense que tant dans un cas comme dans l'autre, on manque de nuances, puis on crée peut-être des attentes disproportionnées quand on utilise un dossier pour montrer toutes les forces du système de justice. Fait que moi, j'ai essayé, quand j'ai commenté publiquement, d'amener un petit peu de nuances par rapport à ça. Oui, il y en a des dossiers qui fonctionnent. Oui, des condamnations, il y en a. Mais attention, ce ne sera pas que des condamnations qui vont suivre ce verdict-là. Ça n'aura pas été le premier des derniers verdicts. Là.
Non, c'est ça, parce que t'as raison. Moi aussi, j'ai entendu beaucoup de commentariat dire « Bon, ben ça prouve que dénoncer, ça marche. Fait que allez dénoncer à la police puis arrêtez de nous écœurer avec vos mouvements sociaux féministes. » Puis, je pense que dans ce que tu as dit, ça contient implicitement un historique. Parce que tu dis, il y a eu certains procès contre des personnes en milieu politique où il y a eu acquittement. Il y a eu aussi des personnes contre qui il y a eu des allégations. Et puis, ça s'est soldé en poursuite en diffamation. Et finalement, la personne a continué à avoir sa carrière politique. Où j'ai vu beaucoup de frustration sur les médias sociaux, c'est lorsqu'il y a des allégations qui circulent contre une personne et là, les journalistes ne peuvent pas en parler. Parce qu'il y a comme code déontologique, si vous êtes membre, par exemple, de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la fameuse SPJQ dont on parlait tout à l'heure, ou de l'Association des journalistes canadiens, il y a un code déontologique qui est associé à ça et on n'a pas le droit de colporter, entre guillemets, des rumeurs. Et lorsqu'il y a des choses qui sont lancées sur les réseaux sociaux jusqu'à preuve du contraire, c'est considéré comme une rumeur. Et là, la seule chose que les journalistes peuvent publier, c'est si la personnalité publique décide de nier les allégations. C'est ça qui devient la première nouvelle dont on parle. Donc, on ne parle pas des allégations, on parle du fait que Yves-François Blanchette, pour ne pas le nommer, a nié en 2020 plusieurs allégations. Et là, vous allez trouver c'est des titres comme ça de nouvelles, mais vous n'allez pas voir ce qui a circulé sur les médias sociaux parce que ça, c'est de la rumeur et on ne peut pas colporter des rumeurs. Donc, et ça, ça crée énormément de frustration dans les milieux féministes, notamment cette question-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension ou je ne sais pas si toi, tu sens aussi la manière dont tu accompagnes les personnes, les survivantes, où il y a des incompréhensions par rapport à qu'est-ce que les journalistes peuvent dire ou ne peuvent pas dire dans l'espace public, comment ça se passe et c'est quoi leur travail.
Nous, ce qu'on voit, on a été au Québec en 2020, il y a eu une vague de dénonciations qui, à ma connaissance, n'a pas trouvé écho ailleurs au Canada. Puis la particularité de cette vague-là, c'est qu'elle avait lieu sur les réseaux sociaux, puis c'était beaucoup des dénonciations anonymes. Puis un gros accompagnement qu'on a dû faire chez Juripop, c'est de clarifier le fait que les médias, ben les réseaux sociaux, fait que pas les médias traditionnels, mais les réseaux sociaux ne peuvent pas garantir une confidentialité puis un anonymat à toute épreuve.
Tout à fait.
Puis ça, je pense que les médias traditionnels, une des raisons pour lesquelles on s'y tourne, c'est dans l'espoir de voir son récit traité avec plus de... d'avoir une égalité de parole avec l'accusé qu'on n'a pas dans le système de justice. Donc, bref, je réponds sans répondre à ta question parce que nous, l'accompagnement qu'on a dû faire, je te dirais, c'est plus par rapport aux médias sociaux qu'aux médias traditionnels. Tu sais, il y en a plein qui n'ont pas confiance dans les médias puis que faut se rappeler que les personnes, quand elles dénoncent, pas pour faire tomber quelqu'un, tu sais, ou très rarement, là, souvent, ce qu'on veut, c'est guérir ou si on veut que ça arrête, on veut plus que ça arrive à d'autres personnes puis on se demande, bon, ben comment je dois m'y prendre pour alerter mes pairs des comportements problématiques d'une personne? Puis, je pense que c'est entre autres pour ça qu'on va se tourner vers les médias. C'est pour que les comportements problématiques soient révélés au grand jour, puis pour éviter que ça se reproduise dans le futur.
Arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que lorsque la réputation d'une personne dans l'espace public est un outil, est perçue comme un outil par lequel les comportements peuvent se reproduire, c'est parce que la personne a une célébrité, parce que la personne est une vedette, parce que la personne est en situation de pouvoir qu'on se dit que cette personne-là peut être dangereuse pour d'autres personnes éventuellement, on se dit, bien, à ce moment-là, c'est important que si la personne essentiellement construit sa réputation ou se protège contre ses comportements dans l'espace public, c'est par l'espace public que la solution va passer. C'est un peu, on se dit, on va combattre le feu par le feu. C'est pour ça que c'est pas un hasard, je pense qu'il y aurait une question d'intérêt public pour les médias si on essayait de dénoncer médiatiquement une personne qui n'est pas dans l'œil du public. Donc, il y a ce filtre-là. Mais je pense aussi que les victimes ne cessaient pas non plus, n'essaient pas non plus d'amener vers les médias des dossiers de personnes qui n'ont pas de personnalité publique ou du moins, c'est un réflexe qui est très peu présent.
Mm-hmm. Oui, parce que la célébrité contribue à l'impunité. Donc la réputation, comme tu le dis, contribue à l'impunité. Puis c'est intéressant le filtre que tu mentionnes, parce que moi, j'écoute ça avec mes oreilles d'avocate, puis ça me fait penser aux critères qu'on utilise pour déterminer si des propos sont diffamatoires ou non. Parce que, puis ça, c'est une autre particularité québécoise, mais au Québec, on est la seule province où le fait de dire la vérité n'est pas un moyen de défense suffisant quand on fait face à une poursuite en diffamation. Donc, en d'autres termes, dans le reste du Canada, on a simplement à prouver que nos propos sont vrais, puis la poursuite en diffamation va échouer. Alors qu'au Québec, on peut tenir des propos qui sont vrais, mais néanmoins être tenu responsable de diffamation si un tribunal en vient à la conclusion que l'intérêt public ne justifiait pas que ces propos néanmoins véridiques soient diffusés dans l'espace public. Puis d'ailleurs, suite au mouvement de dénonciation, ben comme tu le mentionnes, ça a donné lieu à plusieurs poursuites en diffamation. Puis l'interprétation du critère d'intérêt public est pas encore très nette en jurisprudence, mais dans les prochaines années, il y a quelques décisions qui vont amener les tribunaux, du moins au Québec, à se pencher puis vraiment à circonscrire les paramètres dans lesquels l'intérêt public justifie qu'on dénonce ou non quelqu'un sur les réseaux sociaux.
Tout ce que les médias ont besoin de faire avant de publier publiquement une histoire, les gens souvent le comprennent mal et parfois ils peuvent le vivre mal, le fait que le processus soit aussi lent et aussi tatillon, aussi près de... Ils cherchent autant essentiellement à se protéger parce que lorsqu'il y a poursuite en diffamation, c'est les personnes qui ont dénoncé qui peuvent être victimes, qui peuvent être l'objet de ces poursuites, mais c'est aussi les médias qui ont publié l'histoire qui peut être l'objet aussi de faire l'objet de poursuites en diffamation. Donc, c'est sûr que les départements légaux, les avocats qui travaillent pour les journalistes sont très frileux lorsqu'il est question pour un média aussi de dénoncer une personnalité publique. Et souvent, c'est seulement parce qu'il y a plusieurs victimes qui parlent contre un seul agresseur que là, les journalistes vont publier. C'est parce qu'elles peuvent comme ça corroborer les témoignages en disant qu'il y a un pattern comportemental qu'il y a publication. Donc, s'il n'y a pas plusieurs personnes qui dénoncent un même agresseur, souvent les journalistes non plus ne vont pas aller publier l'article.
Moi, je distingue beaucoup la vague, le mouvement MOSI 2017 puis la vague de dénonciation qu'on a eue sur les réseaux sociaux au Québec en 2020. Société, à mes yeux, a beaucoup mieux accueilli le mouvement MOSI en 2017 que la vague de dénonciation sur les réseaux sociaux parce que les dénonciations de 2017 avaient été portées ou rapportées plutôt par des médias qui, eux, comme tu l'expliques, suivent une méthodologie qui, sans être aussi exigeante que celle du système de justice, y ressemble. C'est-à-dire que on accueille une version des faits, puis on va tester, on va comparer cette version des faits-là à celle de l'accusé. Fait qu'il y a une notion là, d'équité procédurale qui est respectée par les journalistes. Alors que sur les réseaux sociaux, ben là, c'est le free-for-all. T'sais, on fait sa dénonciation, puis on n'a pas besoin de la soumettre à qui que ce soit avant qu'elle soit publiée. Puis en fait, en t'écoutant, t'as raison que, à ma connaissance, les dossiers d'enquête, là, où il y a des personnes qui sont dénoncées et qui tombent, donne suite à plusieurs dénonciations, puis que s'il y a juste une personne, ben là, ça va pas être rapporté par l'espace médiatique. Puis ça, c'est une différence vraiment importante avec le système de justice où, au contraire, on est excessivement frileux avant de condamner quelqu'un, que ce soit au civil, puis encore plus au criminel, sur la base de ses comportements passés antérieurs. En fait, en matière criminelle, si la couronne veut mettre en preuve des comportements sexuels déviants ou des agressions sexuelles antérieures, la couronne doit vraiment se lever de bonne heure puis obtenir la permission du tribunal, puis la défense va s'objecter puis va dire ben ce que mon client a fait par le passé, c'est aucunement pertinent pour savoir si dans ce cas précis-là, il y a effectivement eu une agression. Puis en droit civil au Québec, il y a une des femmes qui avait dénoncé Gilbert Rozon, qui était une figure très, très connue, très, très puissante du milieu de l'humour au Québec. Elles ont porté plainte à la police, ça n'a pas fonctionné, puis elles ont essayé de se mettre ensemble pour faire une action collective. Fait que vraiment, encore une fois, d'avoir la force du nombre pour dénoncer. Puis les tribunaux, c'est monté jusqu'à la Cour d'appel, ils ont essayé d'en saisir la Cour suprême, la demande n'a pas été acceptée, puis les tribunaux ont répondu que, ben c'est tous des cas individuels, puis il n'y a pas de question commune. On ne peut pas traiter collectivement ces histoires-là, même si ce sont toutes des femmes qui allèguent avoir été non seulement agressées par le même homme, mais ce qu'elles alléguaient, c'est que lui suivait un modus operandi qui fonctionnait toujours de la même manière pour abuser de son pouvoir. Puis ça, les tribunaux ont dit que ça n'a pas sa place dans le système de justice. Fait que ça, c'est une nuance vraiment intéressante, je trouve, entre les deux milieux sur les dénonciations collectives.
Il y a peut-être même une peur de contaminer jusqu'à un certain sens les témoignages. Si les victimes se parlent entre elles, ce qui est quelque chose qui est nécessaire si tu veux aller parler à un journaliste, ben, cette même manière-là de se coordonner va ensuite te nuire si tu veux aller dans le système juridique. C'est bien ça.
Ben oui, puis on se rappelle de l'affaire de Gianne Gomeschi. Puis dans cette affaire-là, Gianne Gomeschi avait été acquittée. Et puis une des choses qui avait été reprochée aux victimes, c'est qu'elles s'étaient parlé entre elles et ne l'avaient pas divulgué aux policiers, ne l'avaient pas divulgué au procureur de la Couronne. Puis quand c'est ressorti en contre-interrogatoire, leur crédibilité a été complètement achevée. Puis on n'aura jamais. Puis ça fait partie des motifs que le juge a invoqués pour acquitter Gianne Gomeschi.
Pour les gens d'ailleurs qui ne savent pas, qui connaissent Canada Land depuis peu longtemps, l'histoire de Gianne Gomeschi, c'est notamment ce qui avait fait la réputation de Canada Land. C'est une des premières histoires que Canada Land avait sorties. Ça a été probablement une des premières histoires du genre dans le Canada anglais. Puis au Québec, ça a été Éric Salvaille et ensuite Gilbert Rozon en 2017, qui ont été comme les deux cas. Puis ensuite, en 2020, sur les médias sociaux. Toute la conversation qu'on a ensemble, il n'y a personne ici qui est en train de défendre le système de justice, de défendre les médias. On est juste, je pense que notre volonté cette semaine, c'était vraiment juste de partager, de démystifier en fait, puis de poser des questions sur le processus, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement. Je sais pas, j'ai envie de te demander comme mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire particulièrement aux survivants, aux survivantes qui nous écoutent, parce que je pense que ça peut être une conversation qui a été difficile à écouter pour un ensemble de raisons. Qu'est-ce que tu as envie de leur lancer comme message en terminant?
Le message que j'ai toujours envie de passer, c'est de souligner l'existence de ressources pour accompagner les personnes, des ressources variées. Tu sais, il y en a qui sont financées par l'État, il y en a d'autres qui sont des initiatives communautaires. Donc, il existe beaucoup, beaucoup de ressources de personnes qui sont spécialisées puis qui peuvent nous accompagner à naviguer à travers les suites d'une dénonciation, les suites d'une agression. Puis nous, ce qu'on voit souvent chez Juripop, c'est que les personnes qui ont l'expérience la plus positive envers le système de justice, c'est pas celles qui ont une condamnation, c'est celles qui sont accompagnées par les bonnes personnes. Puis en tout cas, au Québec, comme tu le disais, les mouvements féministes se sont organisés depuis les années 80 pour un réseau plus, tu sais, dont la formalité varie, mais qui permet de faire cet accompagnement-là, puis qui fait vraiment une différence dans la réparation, puis dans la réparation des personnes.
Donc, essentiellement, peu importe si les gens dénoncent ou pas, peu importe comment les gens veulent vivre avec ce qui leur est arrivé, c'est mieux de ne pas le faire seul.
Oui. Même si c'est tough d'aller chercher de l'aide, ça vaut souvent la peine.
Alors, c'est tout pour Détour. Merci beaucoup, Sophie.
Merci, Émilie.
Vous pouvez nous trouver sur Twitter à CanadaLand et vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à emilie@commercialcanadaland.com. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours envie d'entendre vos commentaires. Et si vous faites partie des personnes qui soutenaient financièrement Canada Land, on a particulièrement aussi envie d'entendre vos commentaires en français pour les annoncer dans les patrons aussi en début d'émission. Donc, faites-nous signe. Sophie, où est-ce que les gens peuvent te trouver?
Moi, il faut que j'avoue là, que je suis pas la plus active sur les réseaux sociaux, mais Juripop, on s'efforce de faire des contenus sur l'ensemble des réseaux sociaux. Fait que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. On n'est pas encore Snapchat, là. Je pense que je suis trop vieille pour ça, mais ça va peut-être venir un jour.
Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour mensuellement sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous dès maintenant. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Un grand merci aussi à André Prou pour ses conseils à la production. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches.
Vous pouvez écouter Détour sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.